Bonjour et bienvenue pour ce 16e numéro de Sans langue de bois. Et oui, c'est encore Noël après Noël. Comme nous nous sommes bien amusés la dernière fois, mais que nous tenons aussi à vous prouver que nous pouvons mettre plus de sérieux dans nos amusements, nous rempilons pour une nouvelle édition de...
Sans langue de bois s'amuse.
Merci. Avec moi autour de cette table aujourd'hui, Tatiana, spécialiste des débats de société. Bonjour.
Bonjour.
Annette, chargée des relations internationales.
Bonjour.
Jocelyn, homme d'action généraliste et grand amateur d'opéra.
Bonjour.
Et Thomas, homme d'humeur et d'humour.
Merci Maria, bonjour à tous.
Et dans cette nouvelle formule de Sans langue de bois s'amuse, ces vaillants éplucheurs de nouvelles que vous venez d'entendre, ainsi que vous, cher public, car oui, aujourd'hui, il y a un public d'esprit
magnifique,
critique,
hein.
Dans tous les sens du terme, je nomme Mélina, Magali et Pierre, ainsi que vous, chers auditeurs également, avec eux, devrez essayer de répondre à des questions qui concernent l'actualité du mois qui vient de s'écouler. Il y aura 6 doublés de questions. Oui, je sais, ça paraît compliqué comme ça, mais vous verrez, c'est très simple. Les doublés sont thématiques, et il y a à chaque fois une question facile pour vous échauffer, et ensuite une question plus difficile pour tester vos neurones. Et donc, cher candidat, si vous ne savez pas, il y a la possibilité de faire appel au public.
Magnifique, ouais. On compte sur vous.
Et nous commençons tout de suite par l'actualité en France. Et nous commençons tout de suite par deviner deux personnalités qui ont marqué ce mois de janvier. Tout d'abord, un homme.
Moi, je jouais deuxième ligne, c'est-à-dire au paquet. C'est pas un poste qui se fait dans la finesse.
Alors, est-ce que vous l'avez reconnu ?
C'est un homme politique ?
C'est un homme politique ?
Oui. Oui. On peut dire ça comme ça.
Ah, il a un petit accent, il vient ouais. Du sud.
Non, il a un accent ch'ti, non.
Alors, j'ai pas vérifié sa biographie, mais continuez dans cette direction-là, peut-être, on va voir où ça vous mène. Alors, indice suivant.
Et pourtant, de la finesse, il va devoir en faire preuve pour reconstituer l'unité syndicale et stopper l'hémorragie au sein de son organisation.
Est-ce que c'était pas François Chérec qu'on a entendu ?
Bien Thomas, merci. Alors c'était pas la question, c'était juste pour se mettre un peu en jambe et s'échauffer.
J'ai trouvé la réponse.
C'est bien.
C'était la question facile.
En septembre dernier, il a annoncé qu'il passait la main, ce qu'il a fait 2 mois plus tard en novembre. Mais qu'est-il devenu depuis ?
Inspecteur général à l'action sanitaire et sociale.
Bon, on a un spécialiste des affaires sanitaires, c'était un peu perdu d'avance. Mais encore, il n'est pas que ça.
Et chargé, je crois, de suivre le plan de lutte contre la précarité ou quelque chose comme ça.
Oui, enfin, c'est spécifique dans son mandat d'inspecteur général.
Mais ce qui fait d'ailleurs très grincer les dents des syndicats qui voient un peu un mélange des genres là-dedans et ça fait polémique en ce moment, donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Sinon, pour revenir sur la question de François Chérec, il a été aussi nommé président du think tank Terra Nova.
C'est la deuxième réponse que j'attendais, merci Thomas.
D'accord.
En remplacement d'Olivier Ferrand qui est mort en juin dernier d'une crise cardiaque, et il a été nommé, et là encore, ça pose problème parce qu'un syndicaliste qui tout d'un coup est nommé dans une charge publique et qui donc a, oui effectivement, un doublement de salaire, voire un triplement, est-ce qu'il était vraiment au fait de son combat syndicaliste à l'époque, et là, avec cette question d'un think tank apparenté à un parti socialiste, c'est la question normalement des syndicats qui doivent être un petit peu neutres par rapport aux partis politiques. Voilà, donc c'est tout ça, je dis pas qu'il sait bien ou c'est mal, j'essaye de replacer le débat.
Enfin, je précise qu'il n'est pas payé pour son engagement dans le think tank.
Oui, non, bien sûr.
Mais je pense que la question justement de l'appartenance des syndicats aux partis politiques, c'est une question qu'on se pose depuis très longtemps. Il y avait l'opposition au 19e siècle là, entre guesdistes et Pelloutier, est-ce qu'on doit être associé finalement au parti politique ou pas ? Et je pense qu'on a du mal à définir ça, et à la fois c'est les partis qui rejettent, qui ne veulent pas, et les syndicats aussi qui essaient de se penser indépendants, mais est-ce que c'est possible aujourd'hui d'être vraiment indépendant ?
Surtout dans un pays, et Annette, je pense que tu vas pouvoir réagir, où nous en France on est très peu syndiqués par rapport en Allemagne. C'est quand même fou qu'on parle de ça alors qu'il y a très peu de gens qui sont syndiqués. En Allemagne c'est pas le cas.
Oui, oui. En Allemagne, on cherche plutôt de parler
Par contre, en France, on préfère se lutter et faire la grève.
En Allemagne aussi, il y a ce fameux... Enfin, les syndicats sont par branche de métier.
Oui.
Est-ce que finalement, le fait que les syndicats soient par branche de métier, c'est un bon compromis pour résoudre le problème de l'appartenance du syndicat au parti? C'est-à-dire que je suis ouvrier métallurgiste, j'appartiens au syndicat d'ouvriers métallurgistes. Dans ce cas-là, chacun a son action, son domaine d'action, et tout semble aller pour le mieux en Allemagne au niveau de
ça,
des conflits sociaux.
Je n'ai jamais réfléchi comme ça, mais tu as raison, oui. Merci.
Merci pour ces éclairages divers et variés. Et nous aussi, on va franchir les frontières, comme ça on va un peu cumuler.
Ouais, enfin,
les mandats,
mais
les questions. Voilà, tout à fait. Alors justement, question suivante, on va passer à la personnalité féminine que j'ai choisie du mois de janvier. Et cette fois-ci, je vais faire à la manière question pour un champion. Donc top, c'est parti. Je suis une femme née en 1925 dans une famille bourgeoise d'origine lyonnaise. Mon père est un normalien qui parle 7 langues et qui vit en réaction à son milieu dans l'austérité la plus totale. Ma mère, quant à elle, est une artiste fantasque. Enfant, j'ai passé mes étés dans les monastères. Je vais aussi beaucoup au concert avec ma sœur et je joue du piano. Je fais ensuite le conservatoire de Paris, mais comme on me dit que je n'ai pas assez de talent, je m'oriente vers la composition. À 20 ans, je fais un tragique accident de vélo qui va me donner ce look qu'on me connaît jusqu'à aujourd'hui encore, une femme grande, très droite, avec une démarche d'équilibriste. Non, ça ne vous dit toujours rien, le physique, vous
Michel
imaginez Alieu pas.
Michel Alieu-Marie est né en 1925.
Pas tout à fait. Donc je continue avec des indices suivants. Ensuite, parce que ma grand-mère était la présidente du prix Fémina, j'ai commencé à devenir coursière pour la revue Fémina, justement. Et c'est en travaillant pour ça que je passais tous les matins devant le café de Flore, où je voyais Antonin Artaud, Juliette Gricot, Giacometti.
D'accord, ok.
Tatiana a peut-être trouvé.
Simone de Beauvoir.
Pas tout à fait, je la voyais aussi, mais c'était pas moi. À la fin des années 50, je me suis mariée avec un éditeur et critique d'art prénommé Jacques, je ne donnerai pas son nom de famille, sinon ça serait trop simple, avec qui j'ai fréquenté beaucoup de milieux d'artistes, et notamment des milieux où je côtoyais Alberto Giacometti à nouveau et Niki de Saint-Phalle. Et ensuite, j'ai divorcé. Et à cause de ce divorce, j'ai opéré une reconversion totale et je me suis un peu penchée sur ce que j'étais moi-même.
Elle est féministe ?
On peut dire ça comme ça.
C'est une artiste ou une designer ?
Et ensuite, j'ai commencé par ressusciter des talents oubliés du mobilier des années 30.
C'est pas Putman ?
Bien, Jocelyn, merci beaucoup.
Magnifique.
Et donc, je suis décédée le 19 janvier dernier. Voilà, vous la connaissiez bien ?
Moi, je connais surtout son piano... Noir
de
et blanc,
Pleyel. Voilà, tout à fait. Oui, et donc c'était aussi une des premières à avoir promu le loft comme type de logement et avoir promu aussi une architecture d'intérieur très dépouillée.
Il y a aussi à Kreuzberg, mais il y a là un appartement type car loft. C'est pour vous avez la car sur la rue, vous n'aimez pas ça, vous prenez votre car dans votre appartement.
Mais ça c'est magnifique, donc c'est le parking transformé en.
Oui, oui, parce que tu as un Porsche, par exemple, tu veux le voir. Le
pas
soir,
encore, j'ai pas encore de Porsche.
Tu veux le voir, le soir, c'est un accessoire. Ça va bien avec, je sais pas, la télévision, tout ça. C'est Karloft. Hein.
On va quitter les personnalités du mois et les personnages surtout qui ont marqué ce mois de diverses manières pour passer à une question un peu plus sérieuse de droit et notamment liée au Conseil constitutionnel. Alors, il y a eu plusieurs réformes touchant plus ou moins au Conseil constitutionnel là, qui ont été évoquées ce mois-ci, et notamment une proposition de réforme qui concernait le Conseil constitutionnel lui-même et sa composition. Et elle est passée presque inaperçue, et est-ce que vous l'avez repérée ?
C'est pas la fin des présidents nommés automatiquement après l'échéance de leur mandat.
C'est ça, et c'est ce que c'est donc à l'occasion de son discours justement au Conseil constitutionnel le 7 janvier dernier que François Hollande a annoncé qu'il souhaitait mettre fin au statut de membre de droit du Conseil constitutionnel accordé donc aux anciens présidents de la République.
Il en a profité d'ailleurs pour rappeler que 3 sièges de membres élus au Conseil constitutionnel allaient être repourvus puisqu'ils arrivaient à fin de mandat et que donc il y aurait des nouvelles nominations très bientôt. Elisabeth Guigou avait été pressentie pour prendre un siège, mais elle préférerait peut-être un poste de commissaire européen, donc elle aurait décliné la petite proposition officieuse.
Elle ne fait pas de cumul des mandats, elle. Voilà, mais vous pensez que c'est une bonne mesure ou que c'est, ça se justifie? Bon, de toute manière, la plupart des présidents, des anciens, ne peuvent plus physiquement même.
Non, moi je pense que le Conseil constitutionnel a un vrai rôle à jouer dans la vie politique aujourd'hui. Et le problème d'être membre de droit, donc d'avoir ces présidents-là, c'est que, donc certes, ils sont experts sur ces sujets-là, mais la parole doit être aussi partagée. Le Conseil constitutionnel comme un lieu où on va interpréter et lire la Constitution. Et je pense que il faut au moins qu'il y ait d'autres personnes, enfin, qu'il y ait une vraie représentation aussi dans ce Conseil constitutionnel.
Oui, surtout que ça a été longtemps vu comme la retraite dorée de nos présidents. Ils sortaient, ils avaient les 5 000 euros du Conseil constitutionnel. Alors, je ne vais pas vérifier les chiffres, mais c'est quand même un salaire assez élevé. Et ça faisait un petit peu ça. Contre quoi, une participation annuelle ou bisannuelle, je n'en sais rien. Mais on imagine mal, véritablement, Valéry Giscard d'Estaing ou Jacques Chirac qui prennent vraiment part à la construction des dossiers. On sait bien que non, ils sont là pour donner leur aval, voter. Ils ont bien un poids, mais c'est relatif, est-ce que ça vaut vraiment ce salaire-là? Ça fait plus retraite
voilà, donnée. Alors qu'il y a un vrai... Enfin, le Conseil constitutionnel, s'il existe, c'est qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Et la lecture constitutionnelle des textes, c'est pas anodin. Et donc oui, il faut que ce soit ouvert et avec plus de monde. Et voilà, moi, je suis d'accord avec la proposition de François Hollande.
Eh bien, t'as été entendu, Tatiana.
Jocelyne, tu voulais rajouter quelque chose?
Mais je crois que de toute façon, on voit que Giscard d'Estaing, notamment, ou Chirac, ne vont pas forcément citer à toutes les séances. Sarkozy avait aussi dit qu'il n'allait pas assister à la séance sur les comptes de campagne parce que ça, c'est un petit problème de...
Il me semble que juste pour toucher le chèque de 5 000 euros à peu près, voilà, leur traitement en tant que membre du Conseil constitutionnel, ils ont un quota de séances à valider avec une feuille de présence, etc., on va dire, mais ils ne sont pas obligés d'aller à toutes pour avoir leur salaire. Et c'est bien ça le truc, ils ne font pas à toutes et ils sont quand même membres de fait du Conseil constitutionnel et ils ont leur salaire.
Et je crois qu'il y avait aussi une raison historique quand ça avait été fait en 58 de mémoire et qu'ils voulaient essayer de recaser René Coty quelque part dans les années 60, donc bon, a priori, il est mort. Donc
on est en plein dans la retraite dorée.
On va passer maintenant à un autre dossier qu'a traité cette fois le Conseil constitutionnel ou qui est en train de traiter. Alors c'est peut-être une question un peu pointue, mais peut-être que là Annette sera plus au courant que vous. On verra. Est-ce que vous lisez les journaux officiels et notamment les QPC qui sont proposés
tous les soirs, Marie-Ève, tous les soirs.
Ça, c'était la question facile. Non,
la question, Marie-Ève, c'est est-ce que toi, tu les lis? C'est facile de nous afficher comme ça. Mais...
Il y en a une que j'ai lue et que, dont j'examine, dont je suis
tu
le dossier très attentivement.
Tu lis les QPC, voilà. Thomas?
Non, pas du tout. Non.
Alors, une réforme, justement, est passée encore plus inaperçue et pour cause. Si je vous parle de la nouvelle association APEL, A-2-P-E-L, c'est-à-dire la Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité. Est-ce que vous pouvez au moins trouver le champ d'action concerné par la QPC qu'ils ont présenté, qu'ils ont fait passer d'abord au Conseil d'État et qui maintenant est en train d'être examiné par le Conseil constitutionnel? Pensez à certaines spécificités françaises. Là, je vous donne un gros indice.
Le fromage?
Non, pas tout à fait.
L'éducation?
Non. Pensez à des spécificités géographiques.
L'Alsace.
L'Alsace.
Ouais. L'Alsace-Moselle.
Et ça, c'est alors, toi qui m'as inspiré.
En fait, c'est une question pour te faire plaisir, Marie.
Je sais pas si tu peux poser la question parce que c'est une partie prenante.
Je pose la question, je ne prends pas parti. Je vous demande si vous êtes au courant.
C'est pas sur l'impôt que vous en Alsace, il faut quand même payer de l'impôt pour l'Église, non?
Non, alors ça ne fonctionne justement pas comme en Allemagne, mais on est encore effectivement sous le régime du Concordat et de ses annexes.
Parce qu'à l'époque, que les prêtres sont payés par l'État,
voilà.
C'est ça que ça concerne.
Et les pasteurs et les rabbins.
Oui. C'est ça que ça concerne.
C'est important. Oui. Et donc, vous ne voyez toujours pas.
Et c'est peut-être quelque chose. Arrêtez cette exception.
Voilà. Et donc, il y a eu deux QPC qui ont été proposés par cette association. L'une est passée, n'est pas passée au Conseil constitutionnel parce qu'elle concernait tout le Concordat et que le Concordat, vous savez, ce sont des accords internationaux et que du coup, ça chamboulerait un peu beaucoup de choses avec le Vatican et tout ça. Mais ils sont attaqués aux annexes qui en dépendent. Et notamment au salaire des pasteurs qui a été revalorisé il y a 5 ans maintenant. Et ils ont demandé à ce que cette question soit examinée, car ils ne trouvent pas ça très constitutionnel. Le problème, c'est que si on commence à toucher à ça, et si les pasteurs ne sont plus payés, on n'aura plus d'excuses pour dire pourquoi les prêtres et les rabbins encore. Donc, petit à petit, tout va y passer. Donc, je sais pas, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que l'Alsace et la Moselle soient mises au même rang que les autres régions, peut-être, si ça passe ou...
Oui, il faut quand même un nivellement, là. Ça va pas du tout. En aucun cas, l'État doit payer ni Pasteur, ni Rabin. Non, mais par exemple, là, du coup, comme on a la chance d'avoir une Allemande avec nous, en Allemagne, c'est ça, les gens paient un impôt.
On paye un impôt, c'est une chose très singulière. Ça n'existe qu'en Allemagne. Et ça dépend du land, mais c'est entre 8 ou 9% de, pas de ton salaire, mais de tes impôts.
Ouais, d'accord, ok.
Et maintenant, beaucoup de gens ont sorti parce qu'on a eu beaucoup de scandales. Mais en France, c'est plutôt des dons. On doit payer. Il faut
dans
payer
la France, dites de l'intérieur, ça marche par les dons des fidèles qui sont réunis dans une caisse centrale.
Mais est-ce qu'il y a une structure comme ça où d'un jour à l'autre, il n'y a pas de paiement pour les prêtres ou...
Non, il y a quand même assez de fonds et aussi du patrimoine qui.
Les prêtres en France mènent une vie ascétique, malheureusement. Quand tu choisis la vocation de prêtre aujourd'hui, c'est que tu n'aimes pas l'argent parce que. Enfin, je sais pas, Thomas, mais vivre dans une petite pièce, sur un petit lit. Non, des fois même, il n'y a pas de sommier par terre. Enfin, en tout cas, il faut le vouloir. Mais après, ça repose sur le don des fidèles.
Est-ce que tu as déjà été voir un presbytère parce que là,
Oui, un presbytère. Ah non, mais quand même, c'est une vie assez rude. Pour parler plus sérieusement, ils ont pas... C'est pas... Là, t'as pas une retraite dorée.
Oui, ils ont pas un matelas par terre, quand même. Faut pas exagérer non plus.
Non, par contre,
ce qui était drôle, c'est quand tu disais la France de l'intérieur. Moi, pour revenir sur ce que tu disais, Tatiana, oui, effectivement, la fin des exceptions... Il faudrait qu'elle arrive, surtout que bon, elles sont justifiées historiquement, mais maintenant elles perdent leur actualité. Et quand je t'entends parler de la France de l'intérieur, même si c'est pour rire, ça fait quand même un peu bizarre.
Oui. Mais après, ce qui définit quand même la France, c'est sa diversité. Là, on peut avoir ce langage, dire oui, bon, ils font un nivellement. Oui, il y a cette identité française.
De politiquement correct. De politique,
ouais.
Qui sort de ta bouche,
ouais.
Tatiana.
Et ben moi, oui, je lis Fernand Braudel, l'identité de la France, et qui dit que cette France est belle parce qu'elle est riche de sa diversité. Alors oui, des fois, on peut dire noir et blanc, mais sans langue de bois. Non, je suis vraiment pour la séparation des Églises et de l'État.
Ah bah quand même, ouais.
On va rester sur la citation de Fernand Braudel et passer à la suite maintenant. On quitte le domaine du droit pour entrer dans le débat de société. Une question pour vous mettre en jambes très rapide. Vous avez entendu dire que le hashtag a changé de nom. Quel est son nouveau nom maintenant?
Est-ce que le public tweet et je crois que oui.
C'est pas Modiez?
Exactement, Modiez. Merci
bravo,
Pierre.
Bravo Pierre.
Bravo le
public.
Au Canada, en janvier 2011, donc, l'Office québécois de la langue française a créé et proposé le terme mot-clic.
Après, je sais pas si l'Office québécois de la langue française est une référence parce que d'accord. Navigation internet c'est quand même furteur, bulletineur. Donc,
Je précise que je l'ai entendu sur France Inter. Donc bon, alors moi qu'ils soient eux-mêmes allés chercher l'Office québécois de la langue française. Mais... Et l'autre mot c'est lié au signe dièse donc qui fait penser à des croisillons. Donc on avait pensé à l'appeler croisillon aussi. Je sais pas ce que vous préférez, mot dièse, hashtag croisillon, mot clic. Et surtout que j'ai vu des témoignages sur internet aussi qui disaient de toute manière, j'ai jamais rien compris au hashtag. Ou même je tape voiture.
Il y a des forums qui parlent de hashtag, de mot dièse.
Non mais j'ai une citation là. Ou même quand je tape voiture, on me sort tous les tweets où il y a voiture dedans, même si c'est pas dans le hashtag.
Là, c'est une vraie question de société, Marie-Ève.
C'est hashtag, c'est du français.
Avec le denglish, on dit comment
On pense, on parle. Une prononciation, on a une prononciation plus anglaise, mais c'est pas vrai, mais on pense, on dit hashtag, on prononce le H.
Ouais, c'est quand même plus hashtag.
Hashtag,
okay. Hashtag c'est du français, non?
Passons au débat de société suivant, qui lui était un vrai débat de société. Alors, je vais pas y revenir très longuement. Énième scandale dans la progression vers l'adoption du projet de mariage pour tous, la diffusion à partir du 4 janvier dernier d'une vidéo par BFM TV. Une vidéo qui a fait réagir peut-être un peu trop vite certaines personnes. Mais que montrait donc cette vidéo?
Alors c'était une vidéo qui montrait des opposants au projet de loi, des partisans.
Il y a eu un problème avec la date de cette vidéo, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont réagi. Tu devrais savoir Thomas, il y a certaines personnes qui ont réagi un peu trop vite et du coup ça a fait une polémique assez rigolote de nouveau.
Ils se sont trompés dans la date, ils l'ont antidaté,
Alors je précise, les deux protagonistes c'était Najat Vallaud-Belkacem et... Christine Boutin. Alors, je remets en contexte. Le 15 octobre dernier, Najat Vallaud-Belkacem était allée au collège André Chêne à Fleury-les-Aubrais dans le Loiret pour présenter, alors pour parler non pas du mariage pour tous, mais pour lutter contre l'homophobie.
Ah oui, voilà, oui.
Et
ça me fait plein. Oui, elle était devant en fait une classe d'un lycée et elle parlait de la prévention voilà, pour éviter qu'il y ait dans les classes des propos homophobes et elle en a profiter pour faire un peu de pédagogie sur ce texte qui n'était encore pas écrit, puisqu'on était en octobre du projet de loi Taubira. Mais c'était juste un point, elle n'était pas venue pour faire un prêche dans une école. Or, Christine Boutin, je ne sais pas si c'est elle, mais ou d'autres, ont dit, mais voilà, c'est horrible, on a une ministre de la République qui vient endoctriner nos enfants sur un sujet de société, etc.
Et surtout que c'était à l'époque où Vincent Peillon avait sorti sa lettre à propos de l'encadrement de l'enseignement privé, ouais. Ce qui a encore rajouté à la polémique.
Oui, ces choses-là ne ressortent pas par hasard. C'est parce que Vincent Peillon a envoyé cette lettre au recteur d'académie d'école privée qu'on a ressorti ça. La manipulation politique et les effets de communication politique, on les voit. Voilà, ça c'est un propos sorti du contexte. On a enlevé la date, on fait croire, vous voyez, tiens, hier, Nadja Bellouchi-Belkacem était dans votre lycée, elle endoctrinait vos enfants. Non, c'était en octobre, c'était pas dans le contexte. D'où l'idée de garder l'esprit critique, puisqu'on a des gens de cette association dans le public.
Entre-temps, donc, Nadja Bellouchi-Belkacem a pu remettre les choses au point. Et Christine Boutin, quant à elle, a pu régler ses comptes avec l'intéressé directement.
Oui, nous veillerons à faire l'égalité de droit réelle entre tous les couples, y compris les couples de même sexe. Et oui, nous offrirons aux familles homoparentales, comme d'ailleurs à d'autres familles, les familles monoparentales par exemple, qui doivent se sentir bien seules ce soir avec les slogans qu'on a vus dans la manifestation « Un papa, une maman, un enfant », comme si c'était la seule famille existante dans notre société. Eh bien, nous veillerons à préserver l'ensemble des familles, car nous sommes au service de l'ensemble des familles.
Une réponse, Christine Boutin ?
Je dirais simplement à Mme Belkacem que si le gouvernement et surtout si le président restent sans réaction, il y aura des tensions très importantes dans ce pays. Vous ne vous rendez pas compte, madame, qu'aujourd'hui c'est la France profonde qui s'est levée, parce qu'aucune association n'avait la possibilité de rassembler autant de gens. Il y a plus d'un million, depuis 50 ans, il n'y a jamais eu une mobilisation aussi importante. Si le gouvernement n'écoute pas, il y aura de nouvelles manifestations, il y aura une cristallisation de tous les mécontentements, et alors madame, vous aurez plus qu'à prendre vos valises.
Et nous continuons maintenant en élargissant notre champ d'investigation, parce qu'il n'y a pas que la France dans les actualités. Vous savez qu'une ville, cette fois-ci française, a gagné un rayonnement
international.
Merci Tatiana. Alors, qu'est devenu Marseille ?
Enfin, Marseille capitale européenne de la culture.
Enfin, c'est Marseille Provence. Hein,
merci. C'est bien. Le lendemain donc de l'ouverture ou du lancement officiel le 12 janvier dernier, les premiers musées ont ouvert leurs portes. Seulement voilà, parmi eux, il y en avait un, d'ailleurs le plus grand, dont les visiteurs n'ont vu que des murs. Quel est donc ce gigantesque musée dont la construction a pris du retard ?
Le musée des civilisations méditerranéennes, non ?
Presque. Presque. Musée des civilisations, là ça commence bien, et ensuite ? Non.
Des contemporanéités.
Non, malheureusement. Je vais vous le donner, c'est le MUCEM, c'est un joli nom. Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Donc il propose des collections permanentes, des expositions, des rencontres, du théâtre, du cinéma, de la musique, des fêtes. Bref, 40 000 mètres carrés pour partager la Méditerranée. Vous irez, vous, à Marseille Vous avez prévu ?
Non, mais c'est vrai que ça, c'est intéressant parce que du coup, il y a pas mal de Marseillais justement qui disaient qu'il y avait un peu hypocrisie là-dessus et que eux, ça avait pas l'air de... ils sentaient ça même pas comme une insulte, mais de dire ça y est, dire que Marseille, ça rayonne, etc. Mais que eux, ils ont jamais eu la culture, chez eux, et que tout de suite, pourquoi on va instrumentaliser Marseille, enfin.
Non, mais justement, c'est un projet de société. La commission qui est chargée de donner ce label aux villes a donné à Marseille, c'est parce que les gens qui portaient le dossier ont dit à Marseille, on a vraiment besoin, parce qu'il y a des subventions derrière. On a besoin de ces subventions pour redynamiser les quartiers, avoir une nouvelle politique de la culture et de la ville à Marseille. Or, ces politiques, ça marche. À Lille, qui a été capitale de la culture européenne il y a quelques années, il y a eu des subventions, il y a des quartiers qui ont complètement changé à Lille. Donc, il y a des côtés efficaces de ces mesures. Après, oui, il y a peut-être... tout ne va pas changer à Marseille, et tous les problèmes dont on entend très souvent parler de la sécurité à Marseille, c'est pas avec ça que ça va être réglé. Certes, donc la politique de la ville à Marseille, elle doit être menée d'une autre façon. Mais les municipales de 2014 arrivent.
Oui, non, mais bien sûr. Mais après, c'est des projets qui engendrent, par exemple, je sais pas, une mise à disposition de nouvelles lignes de transport, de la construction de nouvelles infrastructures. Ça, c'est un coût et il y a un impôt. Et je sais pas si l'habitant marseillais est vraiment content de voir que finalement ils vont payer pour ça alors qu'ils se sentent pas forcément concernés. Je sais pas si ça a été un projet pensé collectivement au sein de la ville. Je pense qu'une ville qui a ça, c'est bien s'il y a une symbiose.
Sans rentrer
vraiment
dans la polémique, il y a un point qui a fait l'unanimité, c'est le retard traditionnel des Marseillais à nouveau dans la préparation de cet événement. En comparaison, je tiens à souligner que les Bisontins, c'est-à-dire les habitants de... Les Bisontins.
De Béziers.
Presque, non. Besançon. C'est constant. Merci, ouais, Besançon, c'est bien. Les habitants de Besançon, eux, ont appris en janvier aussi une bonne nouvelle.
Qu'ils n'étaient pas choisis comme capitale européenne de la culture.
Ça, c'est sûr, mais eux, par contre, leur tram sera prêt, lui, avec 6 mois d'avance, en décembre 2014, au lieu de juin 2015. Mais bon, ça, je ne veux pas lancer de débat entre les villes françaises. Donc, on passe à la question suivante. Cette fois-ci, on va aller un peu plus loin en Europe. On va parler d'une œuvre d'art qui est exposée depuis décembre à Varsovie et qui, en janvier, a commencé à faire parler d'elle au début du mois. De quelle œuvre s'agit-il?
C'est pas Im.
Ouais.
De Catalan.
Tu peux en dire plus?
Alors, c'est une œuvre qui était exposée au Guggenheim il y a 1 ou 2 ans dans une rétrospective de Catalan et qui représente en fait Hitler agenouillé, je crois.
Mmh. En fait, c'est.
Et qui a été mis dans le ghetto de Varsovie.
De dos agenouillé, une silhouette enfantine. Et quand on voit de face, effectivement, c'est Hyper représenté en cire et de façon hyper réaliste. Mmh. Mais donc du coup, ça joue sur l'ambiguïté entre le côté très enfantin de la représentation et naïf et de l'autre côté, ben, c'est Hitler.
Et je crois que c'est surtout le lieu de l'installation pour le coup qui fait débat, puisque de mémoire, c'était mis donc, dans le centre de Varsovie.
Dans le ghetto même
voilà,
de Varsovie.
Dans les restes du ghetto, ouais. Alors il faut savoir...
Rue Prosnan.
Rue Prosnan, donc...
Bien documenté Thomas. C'est vrai qu'il a préparé son mois de janvier.
Ah, j'ai bossé hein.
Pour avoir vécu à Varsovie un petit temps... C'est une rue donc, qui se situe vraiment près du centre d'affaires. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est que la ville avait été détruite à 85% après la guerre, donc elle a été entièrement reconstruite par les autorités communistes. C'est un très bel exemple d'architecture sociale réaliste, en l'occurrence. Et on a 3-4 rues qui se battent en duel, vraiment, dans le centre, près d'une synagogue. En plus, une synagogue qui reste vers Varsovie, c'est encore plus rare. Et c'est des rues avec des immeubles qui sont en fait abandonnés en lambeaux, barricadés, enfin, il n'y a pas même qui vivent. On a des portraits dessus qui sont accrochés de gens qui étaient dans le ghetto et qui ont été exterminés. C'est un peu la rue des souvenirs pour les Varsoviens.
Oui, d'installer alors une statue là.
Et ils ont installé une statue en plein milieu de cet endroit qui déjà est très bizarre parce que les immeubles n'ont pas été réhabilités.
Bon, en plus, c'est dans un. Il faut vraiment regarder par le trou de serrure pour.
Et c'est une question qui reste quand même très sensible à Varsovie en Pologne, puisque globalement, les Juifs ne sont pas globalement revenus en Pologne après la guerre. Alors, il y a eu tout un travail de réhabilitation qui a été réalisé sur la question, puisqu'ils ont ouvert un musée dédié aux cultures juives, mais qui avait aussi un retard monstrueux. Et donc, du coup, c'est vrai que ça rentre peut-être un peu en conflit aussi avec cette politique à côté de travail de la mémoire. Et...
Oui, et puis le grand rabbin de Varsovie avait été prévenu, mais en fait, pas exactement du contenu précis. Et du coup, il a aussi réagi après.
Mais bon. Après, voilà, il faut arrêter de... Enfin, rien contre le rabbin de Pologne, évidemment, et c'est normal qu'il s'insurge, mais il faut remettre dans le contexte. C'est pas une croix gammée qu'on vient de taguer sur le ghetto de Varsovie. C'est une œuvre d'art qui n'est pas là pour faire l'apologie d'Hitler. Im, c'est montrer que le mal, il peut être sous toutes les formes et c'est un avertissement qui est donné par Catalan, qui a l'habitude de ses œuvres d'art polémiques, provocatrices, mais à fort contenu politique. Cette œuvre, elle nous dit, bah regardez, plutôt que de donner votre assentiment à des séductions faciles, un enfant agenouillé comme ça, oh, ça a l'air d'être une belle image, et ben non, regardez le mal, il peut se cacher là. C'est un devoir de mémoire, plus que justement cette rue muséifiée horrible du ghetto de Varsovie restée comme ça, où la vie ne reprendra jamais. Quelle horreur! Il y a quand même là, dans l'œuvre d'art de Catalan, un message. C'est attention, ce qui s'est passé dans ce ghetto de Varsovie, ça peut se repasser, notamment voilà, sous d'autres traits. Hitler, c'est peut-être le mal absolu, mais le mal absolu, il peut revenir et c'est un avertissement. C'est pas, voilà, il n'y a pas à faire polémique ou juste quand on comprend mal l'œuvre d'art et ça fait un peu. À ménager les sensibilités, on a l'impression qu'on vit dans un puritanisme complet où on n'a plus rien de droit de dire des choses qui pourtant sont intelligentes, effectivement. Ça, c'est une nouvelle façon de penser le contenu mémoriel et de lui donner vraiment un sens, voilà.
Et de parler sans langue de bois,
ouais,
comme tu le fais.
Thomas, là.
Et on va rester, vous verrez, ma question suivante fait un peu écho à ça, mais c'est dans un autre domaine, cette fois-ci dans la politique internationale. Et je ne sais pas si vous savez qu'il y a eu des élections législatives en Israël tout récemment, le 22 janvier dernier. Là. Et quel parti, alors nouvellement formé, est devenu, en gagnant d'un seul coup 19 sièges, le deuxième parti du pays à la Knesset après celui de Benjamin Netanyahou?
Alors, ce qu'on sait, c'est que le parti de Benjamin Netanyahou est arrivé en tête, il était ultra favori.
Déjà, oui.
Voilà, bon. Après, effectivement, les autres...
Mais il y a un parti... Donc, est-ce que vous savez à peu près l'orientation politique? Non.
Ah, pas du tout.
Pas du tout. C'est un parti de centre laïque qui s'appelle Yesh Atid, c'est-à-dire il y a un futur.
D'accord. Et c'est vraiment représentatif d'une partie de la population
En tout cas, le leader est quelqu'un d'assez charismatique. C'est un ancien journaliste qui était sur des chaînes de télé, qui est très connu. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui a peut-être participé à l'essor. Alors, la France et l'Allemagne ont fêté leurs noces d'or.
Ah oui.
Et alors, qu'a-t-on commémoré au juste
Le traité de
L'Élysée Fastrack.
Bien. Sehr gut. Et vous pouvez rappeler?
Avec Adenauer.
Très
et
bien.
Gaulle.
Il a signé. Oui,
d'accord,
tout à fait.
Ils ont signé ensemble. Ce fameux. Non, mais ce traité de l'Élysée qui finalement matérialise l'entente franco-allemande dans le domaine des activités économiques essentiellement.
Et
je pense
aussi culturel avec que... les.
Oui, les jumelages.
Les chevaux de jeunesse, les échanges.
Ouais, oui, c'est là aussi qu'il y a eu les offices franco-allemands, les échanges entre jeunes, etc.
Échanges, oui.
Et est-ce que vous croyez que les cérémonies pour commémorer ces noces d'or ont été un peu entachées par ce qui se passe en ce moment au Mali, où la France et l'Allemagne n'ont pas les mêmes positions et les mêmes implications? Et
je pense pas, mon bus de quartier s'est promené avec les deux drapeaux, alors je pense que ça va marcher.
Mais moi, c'est vrai qu'au niveau là, de la question du Mali, je ne comprends pas pourquoi l'Allemagne n'arrive pas à trancher.
Oui, c'est un peu, l'anniversaire des noces, et l'homme part pour se battre dans la guerre. Pour l'Allemagne, on a une tradition pacifiste. Les Allemands disent on a beaucoup fait de guerre, maintenant on laisse aux autres. Et je ne sais pas si maintenant l'Allemagne a la bonne position. Et, je suis plutôt pacifiste, mais en même temps, je vois les cruautés au Mali et je me suis dit, est-ce que la position de l'Allemagne, c'est la bonne, mais je sais pas.
Mais au-delà de ça, du coup, on est quand même ensemble dans cette Union européenne et l'Europe marchera avec la France et l'Allemagne. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord ensemble sur des grandes questions comme ça, je pense que ça montre encore une fois qu'on n'est pas prêt.
Bah ça pose la question de l'Europe de la défense qui n'existe toujours pas. Ça pose la question de quel est le moteur de l'Union européenne. Parce qu'on parle du couple franco-allemand, c'est très bien, c'est le moteur de l'Union européenne. Maintenant, dans une Union européenne à 27, c'est dommage que ça soit toujours les deux mêmes qui soient au charbon. Et pourquoi ne pas intégrer plus des pays qui le demandent, comme le couple espagnol-italien qui veut de plus en plus prendre part aux décisions et passer à un quatuor avec donc des vues encore plus différentes, mais ça serait plus démocratique et plus lisible.
Ouais. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense qu'il faut qu'il y ait des leaders dans cette Union européenne, et incontestablement et historiquement, c'est quand même à la France et à l'Allemagne d'impulser, de dire suivez-nous. Et l'enjeu, c'est de se mettre d'accord.
Oui, mais il faut, historiquement, il ne faut pas oublier que la France a traditionnellement des relations très. Aussi de la colonisation avec l'Afrique, ça n'existe presque pas en Allemagne.
Ouais. Bah merci pour tous ces témoignages et éclairages. Et on va passer pour finir à deux petites questions people, notamment people sportive. Alors premier indice.
Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance yourself?
Armstrong.
Oui, mais d'accord, là, c'était la petite question mise en jambe. Mais maintenant, la question suivante...
Elle n'est pas vraiment sportive, ça.
Pas vraiment sportive. Si, vous allez voir, elle est un peu sportive. Quel était donc le mélange détonnant qu'utilisait Armstrong pour se doper?
Il avait de l'EPO, déjà.
Oui, ouais. Mais pas trop, il a précisé, mais pas trop.
Des hormones de croissance.
Un peu de testostérone.
Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il utilisait encore? Quelqu'un dans le public?
Transfusion sanguine.
Voilà, exactement, les transfusions sanguines. Merci Pierre.
Encore.
Et donc ça, depuis les années 90, mais va-t-il maintenant réussir à passer de l'image de menteur à celle de sportif repenti aux yeux du grand public? Va-t-il en dévoiler plus aussi sur le réseau qui est derrière lui?
Richard Virac a bien réussi en France, alors pourquoi pas Armstrong aux États-Unis?
Oui, c'est quand même une autre dimension, non?
Oui, c'est sûr, oui.
D'autres réactions? Il n'y a pas de sportif là parmi vous? Si.
Tatiana.
Sportivement, rapport au vélo, c'est une fois tous les deux ans, en vacances.
Bon. Et est-ce que tu te dopes? C'était
pour les concours.
Pour les dopages. Non. Non, mais il se déclare tout seul. Je pense que là, oui, il ment. Il ne doit pas être tout seul.
Surtout, il ne veut pas en dire plus pour l'instant. Il s'est avancé un tout petit peu. Mais
il sera obligé d'en dire plus parce qu'il y a une procédure judiciaire. Il va forcément être obligé.
Affaire à suivre, en tout cas. Et le dernier personnage, alors là, je n'ai pas d'extrait malheureusement, mais je vous demande de faire appel à vos souvenirs visuels. Dommage qu'on ne puisse pas mettre des images à la radio.
Ça, même, ouais,
voilà. Est-ce que vous vous souvenez aussi qui a reçu le Ballon d'Or cette année, le 7 janvier dernier?
Zlatan.
Non.
Toujours le même.
Dans le public, on sait.
Oui, toujours le même, exactement.
Messi. Elle a dit Messi.
Bien, merci. Ouais. C'est Mélina, merci.
Le public Lionel est à fond. Messi. Hein,
mais alors, ma question plus pointue, c'est quelle était la tenue dans laquelle Lionel Messi a reçu son Ballon d'Or?
Pas un costard à carreaux, quelque chose comme ça.
Pas des carreaux.
À poids, alors.
À poids. Il était comment? À pois
vert.
Voilà, noir à pois blanc, ce qui a vraiment détonné dans la cérémonie.
Donc on fait aussi mode dans son langue de bois, c'est ça?
C'est ça. Et je peux même vous donner son témoignage. Il y avait le note papillon assorti d'ailleurs. Il a dit: je suis très heureux d'avoir remporté ce prix. 4 prix consécutifs, c'est magnifique. Je vais déjà jouir de ce prix. J'espère que ça va bien se passer l'année prochaine. Les deux nommés étaient des grands joueurs. Je remercie toujours mes camarades. Sans eux, j'aurais rien remporté. Mon but, c'est de continuer comme ça et remporter les titres avec le Barça, maintenir ce niveau. Eh bien, malheureusement pour nos participants, ils ne pourront pas jouir d'un quelconque prix, mais j'espère qu'ils continueront à maintenir ce niveau de connaissance de l'actualité dans les mois prochains. Un grand merci donc à Tatiana, Annette, Jocelyn et Thomas, et à tout le public, donc Mélina, Magali et Pierre pour la participation. Et merci à la technique à Mehdi et Mathias. Et pour encore davantage de sérieux et pour approfondir certains sujets, vous pouvez retrouver le numéro 14 de Sans langue de bois, Grand journal politique, et le numéro 15, Parole de militants avec Tatiana, sur la page de l'émission. Continuez d'ici là à vous tenir au courant de l'actualité et surtout, gardez les yeux et les oreilles critiques.